ce matin vous parler d'une jeune fille de 16 ans. Une jeune fille qui s'échappe. Ce n'est pas vraiment qu'elle fuit, elle s'échappe et plus juste. Pas loin de chez elle, il y a un château. Et autour de ce château, un grand parc. Elle aime les formes de ce château, elle aime la lumière dans ce parc, le soleil au travers des feuilles. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle aime, ni même ce qui se joue dans cet attrait pour la beauté, mais elle le sent déjà, elle le sait sans le savoir, cette beauté la sauve de quelque chose. La beauté, ou plutôt les beautés, toutes les beautés. La beauté de l'architecture, de la nature, de la musique, de la peinture, de la photographie, et à l'époque, le dessin plus que tout. Elle en fait déjà 8 heures par jour depuis des années. Elle ne l'intellectualise pas, non surtout pas, mais elle sait que c'est important, la beauté. La beauté toujours singulière d'un jeu de formes et de couleurs. Elle n'a pas encore lu Kant qui voit dans le sentiment du beau un jeu libre et harmonieux des facultés humaines. Chez elle, c'est la violence. Oh, pas seulement la violence, il y a aussi beaucoup de musique. Mais la violence quand même, celle qu'elle subit, celle de n'être pas défendue, même au sein de sa propre famille. Et ce sentiment, même si tout n'est pas noir, même s'il y a aussi des bons côtés, même si c'est la vie mélangée, ce sentiment quand même d'être abandonné par les siens.
Et dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la beauté, c'est le sentiment de rapports agréables.
Et ben on va
parce
en parler.
Parce que j'ai la chance d'avoir ça chez moi.
Exactement, on va en parler de Diderot. Oui. Et de l'encyclopédie. Mais dans la beauté qu'elle découvre quand elle sort de chez elle, elle se sent quand même un peu chez elle. Elle regarde, elle ouvre les yeux, elle se laisse traverser. C'est quand même de la chance, ce château qui fut celui des rois de France, juste à côté de chez elle. Elle ne le sait pas encore, mais elle consacrera sa vie à la beauté, à rechercher le beau dans l'art, dans les photos, partout, à chercher à rendre les gens beaux, singuliers, intéressants, beaux dans leurs différences, peut-être même dans le courage de leurs différences, dans cette forme de hardiesse par laquelle on impose son style. Ce n'est pas la mode qui l'intéresse, ce serait plutôt de rendre les gens beaux. Et la beauté, c'est aussi la générosité, pas simplement l'ouverture du regard, mais également celle du cœur. Pour en parler ce matin de ce que la beauté nous fait, de cette beauté qui peut-être nous sauve ou peut-être pas, j'ai la joie de recevoir une femme qui a grandi, elle aussi, à l'ombre du château de Versailles. Styliste.
Au bassin de Neptune.
Au bassin.
J'ai grandi, vraiment. Bon, à l'allée des Marmousets, tous les jours à partir de mes 2 ans.
Styliste, vous l'avez entendu et peut-être déjà reconnu, galeriste, collectionneuse, réalisatrice, mécène, photographe. Elle a habillé Chet Baker, David Bowie, Teddy Riner et même Jean-Michel Basquiat. Agnès B., que vous avez entendu, est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie pour ce qui est la dernière émission de cet été. Nous allons nous demander d'où vient notre attrait pour le beau, d'où vient le goût de la beauté.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Agnès B.
Bonjour.
Eh ben merci d'être là, vous vouliez déjà m'interrompre pour me raconter comment, ça s'appelait comment, vous viviez où exactement, adolescente?
À Versailles, quartier Notre-Dame, à 3 minutes du bassin de Neptune.
Et le bassin de Neptune, c'est
celui magnifique qui... parce qu'on faisait des roulades dans les pentes et puis il y avait toutes ces bestioles à hauteur de nos yeux.
Ouais.
Et puis il y avait l'allée des Marmousets et j'avais mon Marmouset préféré que j'ai toujours dans mon cœur. Qui
ouais.
est là-bas.
D'accord.
Le Marmouset préféré, il a l'air de se battre, il est trop beau. Ouais.
Et ça, c'est tout au pied du château, c'est ça que je comprends.
Ça, c'est une allée qui monte à la terrasse. D'accord. Quand on vient du quartier Notre-Dame.
Et donc, à l'époque, vous étiez au Beaux-Arts de Versailles, je
après
crois.
Après l'école, oui.
Après l'école, mais depuis 12-13 ans, c'est ça?
Oui, je faisais 9 heures de dessin par semaine, j'adorais être là-bas, c'était l'endroit le plus agréable. Dans ma vie.
Donc finalement, très, très jeune, vous avez cette attirance pour le beau, et c'est déjà très varié, puisqu'il y a déjà la musique, le dessin, le château, la nature.
On n'est pas le droit de gommer. Je raconte toujours ça,
ouais.
Aux Beaux-Arts. On n'est pas le droit de gommer. Ça se débrouiller.
Ça veut dire qu'on réinvente toujours, on prolonge, quoi.
Oui, c'était... Mais c'était une bonne école.
Ça me rappelle quelque chose, quand vous dites on n'a pas le droit de gommer. C'est ce que disait, alors non pas Chet Baker que vous avez habillé, mais Miles Davis. Il disait à ses musiciens, on ne peut jamais effacer une fausse note, mais on peut continuer et on peut en faire quelque chose de beau.
Ah ouais. Mais je l'ai vu, Miles Davis, il était au fond de la scène et de dos. Tout le concert. C'était dingue. C'était dans l'Est, je sais plus où c'était.
Ouais.
Dans l'Est, en France, oui. C'est quand même magnifique de l'avoir vu. J'aime énormément la musique live, j'adore les concerts.
Ouais, ouais. Ouais. Et racontez-nous un peu de Chet Baker, comment vous êtes retrouvé à l'habiller?
C'est grâce à Bruce Weber qui préparait ce film. Et puis Chet, la dernière fois que je l'ai vu, il avait mon blouson de cuir. C'était au New Morning. Ouais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il me connaissait. Il m'a regardé dans les yeux en hochant de la tête, comme ça, tellement doucement. C'est magnifique. C'était magnifique parce que sa trompette et sa voix étaient aussi fines et précises l'une que l'autre. C'était magnifique de le voir.
Mais alors c'est dingue parce que c'est il y a une photo de Chet Baker où il est de profil, la tête baissée avec une mèche de cheveux raides et il a un blouson en cuir. Mais ça c'est vous.
Il est habillé que par moi dans tout le film.
C'est dingue, je savais pas.
On est même allé présenter le film à Cannes, à Venise, je ne sais plus où, avec Chet et Bruce Weber.
Il y a une autre personne que vous avez habillée et qui en avait bien besoin, c'est Bowie. et je pense à ça par rapport au cuir, puisque je crois qu'au début, la rencontre, c'est l'époque de Berlin.
Oui.
Là, il a des costumes un peu...
marron,
un peu...
avec plein de plis aux épaules et aux hanches.
Trop grand,
ouais. Horreur, une horreur, oui. Et donc, j'ai mis un jean en cuir avec Just a Stick to Rock and Roll Style, le mot dans la poche arrière,
ouais.
Qu'il a trouvé. Il est tout de suite allé se racheter 4 jeans en cuir. Et je l'ai habillé très longtemps.
Alors Agnès B, on ne peut pas vous laisser dire ça et passer à autre chose. Pour moi, ça, c'est de la plus haute importance d'habiller David Bowie, surtout que ça a commencé comme ça. Donc il a accepté l'erreur de sa faute de goût.
Oui, ça, j'ai encore honte, mais en même temps j'étais ravie. Voilà.
Et après,
ça
a duré.
Je lui ai proposé, je lui ai envoyé des vêtements pendant 25 ans. Quoi. Puis son 50e, 60e anniversaire, les deux fois il était habillé par moi, c'est au Madison Square Garden.
Ouais.
Moi, la petite Versaillaise, là, bon, je ne croyais pas mes yeux, hein, mais ça m'amusait.
Mais alors, du coup, quand c'est son anniversaire, il vous appelle pour vous demander des habits, quoi.
Oh, ça s'était fait, oui. Ouais. Exactement.
Alors, Agnès B, au début, si on revient sur cette adolescence, vous sortez de chez vous souvent parce que, c'est ce que j'ai évoqué rapidement dans l'édito, tout n'est pas rose chez vous, et notamment, comme vous l'avez raconté en le déplaçant dans votre long métrage « Je m'appelle M » en 2013, il y a un nom qui ne se comporte pas très bien avec vous. Mais la chose est assez ambivalente, puisque c'est aussi quelqu'un qui vous fait découvrir la littérature, Proust.
C'était un standard. Homme très très beau, c'était le père de mes cousins. C'était un très très bel homme. Mais il m'aimait beaucoup trop de mes 12 ans à mes 16 ans. Voilà.
Et donc.
Et ce que je ne comprends pas, c'est que ma mère ne m'est pas protégée, du tout. Elle savait qu'il venait tous les jours me voir. Il ne pouvait pas rentrer chez lui sans passer me voir. Tous les jours.
Donc c'était quand même.
Voilà, je ne vais pas faire une suite d'analyse là.
Non, mais juste pour qu'on.
Oui, mais donc je sais
de quoi je parle. Des attouchements.
Oui.
Et ce qui est souvent le plus douloureux, enfin. C'est aussi de n'être pas protégé par les proches.
Oui,
c'est presque, je dirais,
moi,
pas
je
pire.
Me suis mariée à 17 ans parce que j'en avais assez qu'on me touche.
Ouais. Et donc, il y avait pourtant vos parents qui étaient souvent là, votre mère.
Mon père travaillait énormément, il était bâtonnier de Versailles deux fois. Ma mère avait une vie double. Enfin, elle préparait des dîners de bâtonnat aussi.
Pour... Ouais.
Bon, c'était la bourgeoisie versaillaise, mais mon père était quelqu'un d'adorable. Qui chantait à la chorale de l'Opéra de Paris en même temps qu'il était avocat.
Ah oui. Et vous avez, j'ai l'impression, réussi à leur pardonner de ne pas vous avoir protégé.
J'en sais rien, ça. De toute façon, on ne remet pas les rivières dans les montagnes. Hein. Voilà. J'ai fait avec, mais je me suis mariée à 17 ans pour échapper à ça, et c'était pire avec Christian Bourgois, donc c'était pas possible. Puis après, je me suis retrouvée avec les jumeaux qui avaient 18 mois, et je pouvais plus vivre avec Christian, voilà.
Donc Agnès B, d'ailleurs, c'est le B de Bourgois, ce premier mari qui vous a permis de vous échapper de cette cellule familiale, pourrait-on dire. Et vous avez quand même eu le temps d'avoir 2 jumeaux, et puis de divorcer, et vous vous retrouvez à 19 ans, complètement désargenté, avec 2 jumeaux, et en venant d'une famille bourgeoise avec un père bâtonnier de Paris. Enfin, de Versailles, j'imagine.
Oui. Mon père, il n'avait pas le temps beaucoup de venir me voir. J'habitais au 5e sans ascenseur. Donc, je sais ce que c'est. Je rendais des bouteilles avec les étoiles parce que ça faisait une boîte de thon pour les jumeaux quand ils étaient petits. Pour mettre avec la floraline, voilà.
Mais finalement...
Je sais ce que c'est que de vivre, d'avoir la difficulté. Et je ne regrette rien.
Mais c'est là que vous avez commencé à développer une créativité. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette souffrance, cette violence et l'attirance pour la beauté ?
Non, mais je n'aimais pas la couture. Ma mère faisait de la couture avec ma grande sœur. Moi, je n'aimais pas la couture, mais j'adorais toutes les peintures que j'ai pu voir. Puis à 12 ans, j'étais amoureuse de l'homme organticien, avec son regard hors champ. Voilà. Si je voulais faire l'école du Louvre, je voulais avoir une galerie et tout ça, et finalement, ben, j'ai été galeriste. Oui, ouais. J'ai pas fait l'école du Louvre, je me suis mariée trop jeune, voilà.
Et puis, un peu plus tard, vous avez commencé donc à faire des vêtements avec cette boucherie, je crois, rue du Jour.
Qui était une... Avec Jean-René de Fleurieu et mon fils Étienne Bourgois, qui avait 16 ans, oui, on était aux 3 rue du Jour, en face de la magnifique église Saint-Eustache, où il y a un kissaring d'ailleurs, dans une chapelle de gauche. Voilà.
Ah bon,
juste en face, c'est la boutique Homme actuelle, où il y a toujours des papyrus dans la vitrine. Avant, il y avait des oiseaux qui volaient en liberté. Il y avait Félix Guattari, Gilles Deleuze, Fanny Deleuze, qui faisaient des paperasses pour nous.
Et votre, vous avez aussi beaucoup d'amitié avec des penseurs, Pierre Nora, Guattari, que vous venez de citer.
Pierre Nora, c'était plutôt le groupe de Christian Bourgois, hein, avec Jean-François Revel. Oui.
Donc c'était des dimanches à discuter
Ils venaient déjeuner dimanche, oui, j'avais les jumeaux, non, c'était compliqué. Hein.
Si on résume, vous avez donc 18 ans, vous avez deux jumeaux.
À 19 ans, j'ai deux
19
jumeaux.
Ans, voilà, vous n'avez pas d'argent, et pourtant,
et
le dimanche,
ans, voilà.
Il y a Pierre Nora,
Jean-François
Revel.
Non, mais c'était, avant, ça, c'était avant que je parte habiter au 5e sur l'ascenseur, quand il y avait Pierre Nora et Jean-François Revel, que j'appelais sa vieille maîtresse, à Christian Bourgois. Tellement il la voyait souvent. Alors, il le voyait souvent.
Ouais. Agnès B., on va chercher ensemble d'où vient l'intérêt pour la beauté, en général, d'où vient le goût du beau. Est-ce que vous diriez, vous dont le véritable nom est Agnès Troublé,
oui.
Est-ce que vous diriez que, comme Baudelaire, que le beau est toujours bizarre?
Parce que quelquefois, la beauté nous entraîne vers des choses qui sont peut-être bizarres et qui ne sont pas à première vue belles et qu'on découvre, c'est ça qui est bien. La beauté est tellement multiforme. Il faut savoir la voir.
Parce que ce qui est étonnant dans votre chemin, c'est qu'il y a tous les types de beauté. Quand vous créez des vêtements, donc vous avez eu des très jolis mots sur le fait qu'il ne faut pas appeler ça créatrice de mode, que les créateurs, c'est autre chose. Pour vous, c'est Titien, Botticelli, que,
et Dieu le Père.
Que vous adoriez déjà à 12 ans. Dieu, on va en parler après dans l'émission.
Ah bon?
Laissez-le tranquille pour l'instant.
Un bon pardon.
Ou Jésus, on va en parler des deux.
Ah oui.
Mais dans votre chemin, il y a de tout. Parce qu'il y a une beauté classique. Vos marinières, vos petits gilets avec des boutons de nacre, tout ça, c'est pas bizarre. Hein. C'est simple, c'est pur, c'est intemporel. Et puis de l'autre côté, dans votre multiplicité, il y a les photos de Nan Goldin que vous collectionnez. Il y a Claire Tabouret. Il y a des choses un peu trash d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce d'attirance pour toutes les beautés, au fond?
Mais parce que je disais tout à l'heure qu'il faut la voir, la beauté. Les photos de Nan Goldin, c'est magnifique, je l'ai représentée, Nan Goldin.
Vous êtes la première en France, je crois.
Oui, à la Galerie du Jour, et Martine Parr aussi, puis Ryan McGinley, que j'ai découvert à New York, qui m'a sorti 10 photos et que j'ai tout de suite exposées, parce qu'il photographiait sa bande aussi à lui, comme Nan faisait.
Ouais.
Voilà, puis après ça a été montré Uptown à New York, au musée là-haut, en disant ça évoque Nan Goldin, McGinley, voilà.
Claire Tabouret aussi, c'est vous la première, je crois, en France.
Oui, Claire Tabouret.
Avant qu'elle l'explose.
Ouais, j'aime beaucoup Claire Tabouret. Et j'ai le bébé mangeur que j'adore, qui est tout barbouillé, qui a des yeux angoissés. Il est magnifique, ce bébé mangeur, ouais.
Alors, vous avez donc maintenant votre galerie, qui avant était rue du Jour, elle se retrouve dans le 13e, avec votre collection d'art contemporain, donc ça s'appelle la FAB, place Jean-Michel Basquiat, où on voit toute votre collection. Qu'est-ce que ça dit de vous, cette collection?
On voit ma collection par fragments, sur des thèmes. Il y a eu la hardiesse, en effet, parce que moi qui suis plutôt timide, j'admire la hardiesse chez les artistes. Oser faire autre chose. La hardiesse. Oser faire autre chose, être hardi.
Ouais.
Voilà. Moi, j'admire ça chez les artistes. S'affirmer aussi, c'est pas toujours facile de s'affirmer en tant qu'artiste. Mais là, il y a d'autres artistes, il y a Max Collomb, donc j'aime énormément les sculptures. J'ai la chance, grâce à mon entourage aussi, à mes amis, grâce aux affinités électives.
Ouais.
C'est ça qui dirige ma vie, beaucoup. Voilà.
La hardiesse, c'était le titre d'une expo de 2020, et c'est un mot, on y revient, emprunté à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Visiblement, vous l'aimez bien, cette encyclopédie.
J'adore aller là-dedans. J'ai une chance folle d'avoir ça chez moi. Mais je pense que dans ma famille, au 18e, ils ont dû participer à... Ils faisaient un appel d'offres, et ils avaient chacun la série, les planches et les textes, c'est magnifique.
Vous voulez dire que vous avez une édition originale?
Oui.
Ah oui.
Oui.
Et on revient d'ailleurs au château de Versailles un peu, parce que finalement...
Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais j'étais amoureuse de Louis XV aussi. Il y a un très beau portrait de Louis XV au petit musée de Marly, là. Il y a un très beau portrait.
Amoureuse de Louis XV, vous pouvez nous préciser un peu les choses.
Ou du chevalier de Saint-Georges, ouais, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Mais c'est ça votre regard au fond, parce qu'on pourrait imaginer que c'est des figures de la réaction, de la monarchie, mais c'est pas ça qui vous intéresse.
Ce sont les artistes, les époques.
Voilà, c'est ça, c'est le mélange d'artistes, oui, que le château de Versailles réunit au fond.
Oui, vraiment, c'est la cour de Versailles, le chevalier Saint-Georges, l'histoire, j'adore cette histoire. Le fils d'un grand planteur de la Guadeloupe et de la plus belle esclave, et qui était la meilleure épée, meilleur cavalier, meilleur danseur, tout, et qui a levé... à la Révolution, à 52 ans. Je raconte Saint-Georges, ou peut-être pas.
Si, si, c'est passionnant, carrément.
Il a levé une armée d'esclaves affranchis. Ouais. Grâce à la Révolution, il est allé se battre pour la Révolution. Venant de Lille avec ses affranchis. Ouais, ouais. C'est un très beau livre. Hein.
Ouais.
Et Alain aussi... Guédé m'a dit, il ne peut pas avoir une meilleure amoureuse que vous, hein, chevalier de Saint-Georges. En dédicace sur le livre, oui.
Et c'est ça aussi la hardiesse, quelque part, non?
Oui.
Shut our eyes, we stretch out our arms and we're all
C'était Patti Smith, Dancing Barefoot.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Agnès B, amoureuse de Saint-Georges, de la Hardiesse, qui nous raconte sa vie, son chemin. On découvre votre intérêt pour toutes les beautés, c'est ça qui est très intéressant. Et puis, je vous demandais juste avant qu'on écoute Patti Smith, que vous connaissez d'ailleurs, je crois.
Oui. Je l'ai rencontré parce que j'étais à Venise et j'ai vu sur la Plaza San Marco une estrade avec une chaise.
Ouais.
Et donc j'avais un caillou dans ma poche, j'ai très souvent des cailloux dans mes poches, et j'ai mis un petit mot avec mon numéro de téléphone. Et elle m'a appelé le lendemain, j'ai déjeuné avec elle, c'est comme ça que je l'ai connue.
Ah oui ? Mais vous avez
c'est
des cailloux.
C'est comme une bouteille à la mer un peu, oui.
Et là, vous avez des cailloux dans votre poche ?
Oh, pas dans mon sac peut-être, j'en ai un.
Et
ou deux.
Pourquoi ? C'est pour les
donner. Parce que je fais des bijoux avec des objets trouvés.
C'est pas pour retrouver votre chemin ?
Non. Oh non, j'avais peur que ma mère nous perde dans les bois. Ça m'a terrorisé, le petit pousset.
Mais vous aviez une mère très, enfin, comment dire, dure, un peu absente et autoritaire, ouais. C'est ça ?
Très.
Et puis un
ouais,
père.
Elle pouvait être câline, mais elle pouvait être tellement dure. Bon, rends-toi utile. La phrase, ça fait honte. Rends-toi utile. On se dit comme rendre utile. Quand on a 10 ans, 9 ans, bon.
Il fallait lui répondre à la chanson de Julien Clerc qui à l'époque n'existait pas. Je veux être utile à vivre et à rêver.
Voilà, c'est ça.
Alors Agnès B, dans ce qui fait votre place très particulière dans la mode, il y a le fait que vous vous opposez au fond à l'esprit du luxe, à l'esprit de la saisonnalité de la mode. Vous ne faites que 2 collections par an, vous n'avez jamais jeté aucun vêtement en 40 ans, vous recyclez. Ça fait du bien de voir ça, parce que là je vous dis pourquoi, parce que là il y avait la Fashion Week il n'y a pas longtemps. C'est affligeant, ce spectacle.
Moi, je vois rien, alors. Je sais pas ce que font les autres. Je me suis toujours protégée de ça. Donc, je fais toujours des vêtements. J'ai peut-être 40 ans de vêtements dans ma penderie que je peux mettre aujourd'hui. C'est ça, les vêtements que j'ai envie de faire pour les hommes, les femmes, ces vêtements qui sont bien, qui deviennent vous, quoi, qui vous êtes.
Alors, vous dites, parce que vous voulez pas trop dire de mal, je vous comprends, vous dites, je ne regarde pas, mais quand même, quand on vit à Paris, par exemple, moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu mais des gens arriver par des embouteillages de taxi pour faire 200 mètres dans Paris chacun, une personne dans une voiture. Ils prennent l'avion toute la journée pour relier
non,
Milan,
c'est
Paris,
l'égoïsme de
Londres.
La mode. Vous savez, ce que j'aime pas de la mode, c'est l'égoïsme. Et puis la fast fashion, etc. Quoi. C'est dément. Et le désert d'Akatama qui est bourré de vêtements qu'on balance là-bas, quoi. C'est dément. Donc, Tara, oui.
Alors Tara, c'est Tara Océan, c'est l'association que vous avez montée avec votre fils.
C'est le bateau, surtout la goélette.
Ouais. Et vous faites quoi avec ça ?
La goélette, Tara, elle a fait beaucoup d'expériences, elle avec des laboratoires dans le monde entier, 12 personnes à bord, les scientifiques, les marins.
Et on va écouter justement Tara Océan.
Merci. Quand j'ai découvert le plancton, mais j'ai vu mais encore la beauté de la Terre, la beauté de la création.
On est plus fort en étant collectif. Tara, c'est un collectif où chacun contribue.
C'est très beau, Tara. Ça fait comme terre quand on est naufragé.
Depuis 20 ans, nous sommes engagés pour l'océan.
Alors Agnès B, je précise que cette fondation, c'est un fonds de dotation pour les actions environnementales, la fondation Tara Océan, elle est associée à la FAB, j'ai l'impression.
Donc. Et c'est mon neveu Romain Troublet qui est le directeur de la fondation Tara.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait comme action concrète pour l'environnement ?
Mais là, on continue, il y a la TPS, on a mis 10 ans à la concevoir, à la construire. C'est la Tara Polar Station, qui est en train de se diriger vers le pôle Nord. Et avec du métal qui mesure 2,5 cm d'épaisseur, c'est un outil tellement étrange, qui est très très bien conçu, et j'espère, je lui souhaite la meilleure chance du monde.
Et ça sert à quoi ?
Ce sont des gens pour faire des expériences, toujours. Pour voir la dérive arctique, pour voir, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique.
Ouais, mais tout ça, vous le financez.
Mais j'aide à financer ça, bien sûr.
Depuis toujours, ça fait... Ça,
tout... Mais il y a d'autres sponsors, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, depuis le début, et je continue maintenant. Et je pense qu'il faut que les riches, et les ultra-riches encore mieux, paient leurs impôts, comme tout le monde. Voilà.
Et puis c'est...
Et voilà, il n'y a que ça à faire, parce que sinon ça n'ira pas. Tout le monde paie des impôts, pris à la source et tout.
Bon. Vous avez eu une très très belle réussite, il y a 500 boutiques je crois de par le monde.
Je ne sais pas moins que ça, mais c'est aussi au Japon, c'est beaucoup des corners dans les grands magasins.
Oui, Mais donc, du coup, vous gagnez beaucoup d'argent et vous êtes heureuse de payer beaucoup d'impôts.
Bien sûr. C'est normal. Je travaille à 65%.
C'est pas inutile de le dire. Hein.
À 65% pour l'État, je travaille. Voilà. Personnellement. Bon. Tant mieux, c'est pour ça qu'on m'a mis des médailles, je crois.
Et alors, vous avez dit quelque chose de très beau dans le son qu'on a écouté sur Tara Océan, c'est que vous avez un éblouissement esthétique, on y revient, devant du plancton.
Ben oui, c'est magnifique. Magnifique, la création. Oui. Non, puis je sais pas, j'aime beaucoup les images, vous savez, je fais beaucoup de vêtements avec des photos que je prends moi, ou des photos de la mer, ou des nuages, du ciel. Par des hublots, j'ai fait un pull pour homme, avec tous les nuages vus d'en haut, c'est très beau finalement. Mais je m'amuse bien, hein, vraiment.
Ouais, et puis surtout, vous nous donnez peut-être l'envie de nous sentir plus responsables du monde pour sauver sa beauté, et pas simplement en se sentant coupable. Peut-être que le passage par l'esthétique sera peut-être complémentaire du passage par une conscience plus alourdie de la nécessité de réagir.
Oui, puis je pense qu'on a beaucoup trop de vêtements, c'est moi qui vous le dis. Quand on était petit, on avait beaucoup moins de vêtements que ça. Ouais. Une fois qu'on a des vêtements qu'on aime, eh bien, on n'a pas tellement besoin d'en avoir 40 000.
Mais pourtant, vous continuez quand même à en produire.
Mais j'en produis pour faire plaisir, que les gens soient contents. Puis les gens grandissent, vieillissent, changent, tout ça. Et puis moi, je pense toujours aux autres quand je dessine, voilà.
Oui. Quand vous avez parlé de la beauté du plancton, ça m'a fait penser à Claire Nouvian, l'activiste qui a monté l'association Bloom de défense des océans, qui doit sûrement croiser ce que vous financez dans Tara Océan. Oui. Et Claire Nouvian, elle a eu une émotion esthétique un jour devant un poulpe. Qui m'a fait beaucoup penser à votre regard sur le plancton. Et peut-être, parfois, il suffit d'ouvrir les yeux pour se sentir...
Il y a Kraken, le poulpe de Kraken, qu'on a vu dans Paris, sur les murs, là.
Ah oui, oui.
Horizontal, là, magnifique. Ouais, le poulpe, Je me souviens de mon oncle, il sortait de la mer, il avait un poulpe attaché à sa jambe avec son fusil en Méditerranée, là. Avec le fusil pour sous l'eau. Et le poulpe a craché à sa jambe, c'était beau à voir, c'était bizarre. Mais c'était comme une sculpture, c'était comme de voir les sculptures dans le parc de Versailles. Moi, j'ai énormément regardé les sculptures quand j'étais enfant là-bas.
Et il faut regarder sans juger, vous pensez, pour avoir un œil ouvert, sans jugement moral?
Moi,
sans...
j'aime pas le jugement, de toute façon. Je me permettrai pas de juger. Mais d'avoir une opinion, oui. Bon. Je la partage ou non, c'est...
Alors Agnès B, dans votre chemin, il y a autre chose de très particulier, c'est qu'on n'a jamais vu, depuis 40 ou 50 ans, je ne sais même pas, une pub pour Agnès B.
Ah non. Mais moi, je suis enfant des situationnistes, hein, de mes 68.
Guy Debord, Société du spectacle.
Oui, Guy Debord, mes 68. La publicité est con, la publicité vous rend con. C'était écrit partout dans Paris, hein, en 68.
Mais pourtant, vous avez quand même été avec le publicitaire
Philippe
Michel.
Mais oui, Philippe Michel, ça le passionnait de voir comment j'étais allergique à la publicité. Mmh. Et j'ai quand même eu ma fille chérie, Ariane Michel, avec lui. Voilà.
Mais du coup, ça devait faire des bonnes discussions, non?
Je n'en sais pas le sujet, hein, mais bon, je n'en ai jamais fait. C'est la presse qui m'a faite, mais vraiment. Hein, je n'ai jamais fait une publicité.
Est-ce que vous avez été surprise par votre succès?
Bon, c'est venu tranquillement, hein, je sais pas. Puis je voyais les gens revenir dans la boutique, tout ça, j'étais beaucoup dans la boutique ou au-dessus.
Ouais.
Puis on m'achetait les jupons à volant que je fais encore, en toile à beurre. Ouais, ils n'étaient même pas secs. Ils étaient accrochés au crochet de boucher sur des cintres. Mmh. On les mettait dans des sacs, ils n'étaient même pas secs. Il y a eu un engouement et la presse a tout de suite vu. J'avais déjà travaillé avant pour des marques.
Ouais.
Quand on a ouvert en 76, on a eu énormément de presse. On en avait, mais donc, elle et Marie-Claire, toutes les semaines.
Il faut dire que, par le passé, ce qu'on n'a pas eu le temps de raconter, c'est que vous aviez été repéré dans la rue, je crois, pour votre style vestimentaire, un peu trash, récup.
Par Annie Rivmal, oui.
Voilà, qui vous a proposé d'écrire comme rédactrice de mode non, à elle.
On n'écrit pas, ça s'appelle rédactrice de mode, mais non, on choisit des vêtements, on fait les
On est styliste,
photos,
en fait. Ouais.
On est styliste, en vrai, oui.
Ouais.
Mais je ne suis pas restée longtemps, parce que Jacobson, Dorothée Biss, à l'époque, a eu envie de travailler avec moi, puis j'ai travaillé pour lui... Mais j'avais les jumeaux qui avaient 2 ans, j'avais pas d'argent, c'était compliqué.
Ouais.
Mais c'est comme ça que j'ai fait les vêtements de Qui êtes-vous, Polymago. Mmh. Voilà, donc les rayures noires et blanches que je fais encore, je les ai faites déjà chez Dorothée Biss pour Qui êtes-vous, Polymago.
Et
le film.
Finalement, donc, la mode, au sens propre, ne vous intéresse pas vraiment. Mais ce qui vous intéresse, c'est quand même de permettre aux uns et aux autres de développer leur style, on pourrait dire ça, leur beauté personnelle.
Oui, moi, bien sûr, je pense que... Les gens se connaissent, il ne faut pas se forcer à mettre des choses dont on sait que ça ne vous va pas. Il faut s'habiller en fonction de soi-même, avant même le regard des autres. Puis moi, je dis toujours que quand il y a trop une intention d'être sexy, c'est gênant.
Ouais.
Je trouve que ça tombe à plat. Je préfère un peu de mystère, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de la définition du style que donne Merleau-Ponty, la philosophe phénoménologue, qui dit « le style, c'est une manière de surgir et de se détacher d'une foule ».
J'ai pas assez de prétention. Hein.
Mais on a, est-ce que vous avez continué finalement à faire des vêtements pour financer le reste, pour avoir votre collection ?
Oui, je dessine tout moi-même, hein, toujours. J'adore mon travail, avec mon équipe autour de la table, c'est super. J'aime énormément faire mon travail. Ça m'ennuie jamais. D'ailleurs, je ne m'ennuie jamais non plus.
Ça fait plusieurs fois que vous suggérez le créateur. Ah, ça fait, j'ai essayé de retenir ce sujet. On l'a senti monter. Vous avez déjà évoqué ça par rapport à la beauté. Vous avez évoqué ça tout à l'heure par rapport à la générosité. Cette foi, elle est venue avant l'intérêt pour la beauté ?
La foi, j'ai toujours eu la foi. Hein. J'ai toujours eu la foi, vraiment. J'ai jamais douté. Je l'ai toujours. Puis je remercie le ciel de m'avoir donné des aptitudes, je le dis. Ouais. En ce moment, je me suis rendu compte de ça et je remercie.
Des aptitudes, c'est-à-dire ?
Des aptitudes à faire des choses. Ben, tant mieux, merci.
C'est grâce à Dieu, quoi.
Oui, sûrement.
Votre créativité, c'est grâce à Dieu.
Sûrement.
Votre succès ?
Mais oui, sûrement.
Mais vous êtes plutôt croyante au sens où vous acceptez ce qu'on dit de Dieu dans la religion catholique, par exemple ? Ou alors vous êtes plutôt mystique ?
Non, moi je suis croyante, j'adore lire Saint Jean.
Ouais.
Ce que Saint Jean raconte comme si c'était un journaliste de Libération qui suivait Jésus. Moi, j'ai l'impression d'être avec la bande de Jésus.
Ah ouais ?
Ouais.
Donc vous lisez Saint Jean comme ça, mais c'est Jésus, en fait, qui vous parle plus que Dieu.
C'est tellement beau quand il arrive, la Samaritaine. On connaît la Samaritaine. Eh ben, il arrive en Samarie, il voit une femme à un puits avec un seau et une corde, et il lui dit « Donne-moi à boire, s'il te plaît ». Et il dit oh, « Non, je sais. » Il lui dit « Non, mais je sais, tu as eu 5 maris, mais donne-moi à boire
ouais. ».
Saint Jean raconte ça comme ça. Et du coup, on voit un personnage de Jésus qui ne juge personne, qui il avait soif, il ouais. dit « Je le sais que tu as eu 5 maris », alors qu'il arrive en Samarie et qu'il ne la connaissait pas, la dame en question. Donc ça a un peu impressionné déjà et la dame, et puis ouais. Saint Jean qui raconte ça.
Alors du coup, ce qui vous touche dans cette figure de Jésus, on a l'impression que c'est ce regard qui ne juge pas ?
Oui, non, puis c'est sa souffrance, il savait quelle souffrance il allait vivre, un truc monstrueux, il le savait. Sa mère a vu son fils accroché sur la croix, enfin, supplice pour elle, pour lui, voilà.
Agnès ?
Donc je les aime.
Agnès, Agnès B, Agnès et Agneau, on vous appelait l'agneau, l'agneau de Dieu ?
Non, pas que j'aimais pas trop l'agneau Pascal, bon. Oui, on m'appelait l'agneau, ma mère m'appelait l'agneau blanc, oui.
Et maintenant, vos bureaux sont rue Dieu, dans le 10e.
Oui, oui.
Bah, ça fait un ensemble, tout ça.
Puis j'aime bien la rue du jour aussi, parce que c'est comme toujours à la mode. Ça vient du jour, c'est comme le poisson du jour.
Et puis c'est aussi le jour,
ouais,
le jour du
le
Seigneur.
Jour.
Et c'est en face de l'incroyable église Saint-Eustache.
Mais oui.
D'accord, il y a quelque chose d'intéressant.
C'est un quartier très historique, oui.
Eh bien écoutez, on comprend mieux qui on a en face de soi. Agnès, Agneau, rue Dieu, église Saint-Eustache, galerie du jour. Merci beaucoup Agnès B d'être avec nous. quantité fixe de choses sauvages.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Agnès B. pour sa dernière émission de l'été sous le soleil de Platon. Et nous parlons de quoi ? De Dieu, de Jésus, de Saint Paul, de Saint Jean. C'est quand même très étonnant ce que vous nous racontez. J'aimerais qu'on insiste un peu parce que c'est pas rien, en fait, finalement, de croire comme ça en Dieu, d'avoir cette foi. Je voudrais vous poser une question justement à ce sujet. Mmh. Finalement, vous êtes, on pourrait dire, une chrétienne de gauche. Mmh. Est-ce que tous les chrétiens ne devraient pas être de gauche, au fond ?
Mais le pape François, il était de gauche, ouais. Il disait qu'il était communiste.
Mais Bruno Retailleau, non.
On en est loin. Mais de toute façon, c'est pas ma gauche, là.
Non, mais c'est une question sérieuse.
Comment mais pour on peut moi être aussi, chrétien... c'est pas, quand je dis c'est pas ma gauche, je le pense sincèrement, que c'est pas ma gauche, pour l'instant.
Pas votre droite non plus.
Ah non.
Mais comment être chrétien, ça veut dire être... avoir le cœur ouvert, c'est pas du tout être accroché à des valeurs traditionnalistes, c'est au contraire regarder ce qui est différent. On retrouve votre collection quelque part, c'est une collection, votre collection d'art, elle est liée à ce regard de chrétien de gauche.
Ça, je sais pas, elle est liée à mon appétit de la beauté, à de la curiosité aussi, ouais. Des rencontres au hasard, et puis voilà, c'est...
Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose du regard de Jésus sur le monde quand on collectionne ?
Il a dit « aimez-vous les uns les autres », bon, voilà, ouais. C'est tout.
Je vois que vous avez une veste en jean, que je trouve très jolie, et...
C'est du bleu de Chine.
Pardon.
Elle date de 76, c'est on ça. Vendait les vestes chinoises que j'achetais à Barbès. On les lavait une fois parce que c'était de l'indigo. Mmh. Et la mienne, elle est de 76, donc elle est un peu en loque, mais je trouve qu'elle est devenue bleu pâle.
Mais c'est une veste de vous, hein ?
C'est les petits boutons, non, c'est les vestes chinoises. D'accord. Qui s'appelaient l'antichair, je crois.
J'aime bien. Alors, on voudrait qu'on parle un peu de votre collection. Comment vous choisissez vos pièces ? Est-ce que vous hésitez ? Est-ce que parfois vous doutez, vous y allez quand même ? Comment on construit une collection ? Je rappelle quand même qu'il y a 7000 pièces avec beaucoup de photos, de la peinture figurative, qu'on la trouve dans le 13e, dans ce quartier passionnant.
C'est-à-dire on y met des pièces, mais il y a un grand endroit où les pièces sont rangées. C'est plutôt 6000
pièces.
Quand même, je crois. Ouais. Ou 5 ou 6 000. Mais j'ai deux personnes qui s'en occupent tellement bien, Elodie Caz et Marie. Ouais. Toutes les deux, elles travaillent très bien. Et moi, elles ont tout, je sais, quand je demande une pièce. Là, je viens de demander deux petits dessins de Warhol au crayon, tellement simple, tellement beau. Ouais. Voilà, donc je vais pouvoir les mettre un petit peu, les voir un peu.
Warhol, d'ailleurs, qui avait offert... une de vos chemises à Jean-Michel Basquiat.
Oui.
Et c'est donc le hasard qui fait qu'un jour vous croisez Basquiat avec une de vos chemises.
Chez Yvon Lambert, on lui dit, tiens, c'est Agnès B. Il me regarde de haut, là, un peu, parce que j'ai plus petite que lui.
Ouais.
So that's you. Après, il m'a appelé de la pizzeria en face, on a parlé 2 heures. On n'est pas allé au dîner de Castelbajac.
C'est Basquiat, on parle de Basquiat.
Basquiat, ouais. Et il m'a rappelé dans la nuit que j'allais le rejoindre à l'hôtel Crayon, mais non, j'y suis pas allée. Mais on s'était très très bien entendu.
Il y a quelque chose de bizarre avec les noms de rue chez vous, puisque oui. Tout à l'heure on disait que votre siège aujourd'hui, vos bureaux sont rue Dieu. Mmh. Eh bien, votre FAB, elle est place Jean-Michel Basquiat, oui. Dans le 13e arrondissement, oui. Juste à côté de la rue David Bowie, que vous avez donc habillé pendant des années.
Et qu'on a inauguré il y a 2 ans.
Ouais.
Et puis l'avenue Pierre Mendès France qui coupe le tout.
Qui est donc votre...
C'était mon beau-père, le beau-père de Jean-René de Fleurieu.
Ouais.
Le mari de Marie-Claire Mendès-France, donc, que j'aimais énormément. Donc il est là aussi, c'est l'avenue Pierre Mendès-France. Là où il y a le journal Le Monde aussi.
Ouais. Et c'est un quartier qui est important aussi par rapport à la culture de l'art contemporain. Il y a eu la galerie, plein de galeries à l'époque.
Oui, puis il y a notre chère mère du 13e aussi qui adore les graphes.
Ouais. Et d'ailleurs, je précise qu'en ce moment, il y a eu une expo Agnès B. On aime le graphe à la piscine de Roubaix jusqu'au
Exactement.
Mois de janvier. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut y voir ?
Eh bien, tous les artistes, là, Tank, l'Atlas, Baudeloc, il y a toute une, voilà, de ma collection, justement, et l'accrochage est très bien fait, je les ai remerciés et félicités. Et il y a aussi la Smart qui avait été peinte par John Wan et Ewan aussi, qui est exposée là-bas. Voilà.
Dans votre collection, Agnès
B. Donc j'en viens, là, j'y étais ce week-end dernier.
Il y a du monde ?
Oui, c'était super.
Dans votre collection, Agnès B., il y a aussi une belle place à la peinture figurative. Donc, de l'extérieur, quand on ne vous connaît pas bien, on pourrait penser que c'est que très contemporain, très branché, très Nan Goldin, très trash, mais pas du tout. Il y a beaucoup de choses, on va dire, hétéroclites, qui posent la question de votre goût, au fond. Et c'est un peu la question de l'émission. Comment vous définiriez votre goût, au fond ?
Mais déjà, il ne faut pas d'a priori. Il faut avoir l'esprit ouvert.
On retrouve le sans-jugement,
ouais.
Ce que les Grecs anciens appelaient l'époké, vous savez, la suspension du jugement chez les grands sceptiques.
Ah oui, voilà. Je revendique. Ouais. Je ne sais pas si je suis une grande sceptique. En tout cas, j'aime pas le jugement.
Pas par rapport à Jésus.
J'aime pas le jugement. Non, j'ai bien compris. Non, mais le jugement, de toute façon, bon, on aime, on n'aime pas, on n'a pas besoin d'en faire un fromage, hein, ça dépend.
Ouais. Oui.
Mais quand quelque chose me saute aux yeux, comme quand j'ai vu les Max Colomb dans la chapelle des Beaux-Arts, ces sculptures comme ça, elles m'ont bouleversée. Voilà, alors que j'aime beaucoup cette chapelle, qu'il y a beaucoup de sculptures, et que c'était impressionnant de voir ce jeune artiste avec ça.
Et vous avez commencé par le dessin, et après, vous avez fait de la photo. Vous-même, vous êtes photographe. D'ailleurs, vous êtes peut-être une artiste photographe que plus tard, on verra dans d'autres collections. Ça, on ne sait pas. Mais d'abord, c'est intéressant de passer du dessin à la photo, dans le rapport au monde, dans le rapport à la beauté. Mais surtout, ce que je trouve fascinant dans le dessin, c'est que parfois, il y a très peu de choses. Vous évoquiez aussi un petit dessin de Warhol récemment. Mmh. Il y a quelques traits, c'est la fascination des esquisses aussi. Et puis, c'est incroyable tout ce qui est suggéré, symbolisé, tout ce qui surgit.
Ben là, je me suis amusée, c'est pas du tout le Nikon avec lequel j'ai fait beaucoup de photos, avec le Nikon à l'argentique, en noir et blanc. J'en ai beaucoup, je ne les ai jamais montrées. Voilà, mais sinon, à Versailles, là, c'est Versailles qui est à Tokyo, montré à Oyama, dans la grande boutique qu'on a là-bas. C'est mes photos de Versailles, voilà. Ce sont beaucoup de photos carrées ou juste rectangulaires, je les ai montrées à Marseille déjà, et là, elles sont au Japon. Et moi, j'aime bien montrer ma vision de Versailles, en fait, parce que je connais bien le parc, je connais les endroits, la lumière, où elle est bien, tout ça. Et puis, par exemple, aussi, j'ai fait beaucoup de photos de graphes avec les murs parlent.
Ouais.
Le fameux journal gratuit, là, Le Point d'Ironie, avec toutes mes photos que j'ai prises des murs qui parlent, des cris du cœur, des rages, des colères, des cris d'amour. Ah, j'adore ça.
Le Point d'Ironie, c'est une revue très atypique que vous sortez quelques fois par an,
et
avec un principe étonnant de dispersion mondiale.
Oui, c'était l'idée que j'avais eue avec Christian Boltanski, qui était beaucoup dans l'idée de la dispersion.
Ouais.
Et ça m'avait donné l'idée avec Hans-Ulrich Obris, on était tous les trois chez Lip, et on a décidé ce jour-là.
Ouais.
J'ai eu envie de faire un journal gratuit pour une idée de diffuser la culture. Parce que la culture, c'est tellement important.
Le Point d'Ironie, c'est quoi ?
J'ai trouvé ça dans le Grand Larousse du XXe siècle.
Ah, cette fois, on est sorti de l'encyclopédie du XVIIIe.
À l'ironie, qu'est-ce que je vois ? Je vois la forme. Voilà, Le Point d'Ironie.
Ouais.
C'est là que j'ai trouvé. Mon père me l'avait offert pour mon mariage avec le tapis. Il voulait toujours dans le Grand Larousse. Et bien là, j'ai trouvé dans le Grand Larousse Le Point d'Ironie. J'aimerais beaucoup qu'il soit dans les claviers, moi, Le Point d'Ironie. Ça changerait des smileys.
Ouais, et racontez-nous un peu le principe de cette revue de dispersion. C'est-à-dire qu'on la trouve partout et nulle part. Elle est dure à trouver, mais en fait, il y en a quand même plein.
Dans nos boutiques, là, on va en sortir un bientôt. Voilà, on a une idée. On n'a pas encore la réponse de l'artiste, mais je ne veux pas le dire encore. Donc mais j'en ai des très très beaux. Hein. Ça fait longtemps que je fais ça, maintenant.
Agnès B., pour revenir au thème de l'émission, car on est un peu rigide ici, psychorigide. Kant... Le jugement de goût est subjectif, mais universel.
Bon, j'ai combien de temps, là ?
Vous avez plus de 2 minutes.
Subjectif et universel, ben, je suis d'accord.
Ouais.
Oui.
Donc, en fait, il s'agit de se faire confiance ?
Non, mais je pense que le besoin de beauté, c'est universel, déjà. Il faut voir comment les peuples ont inventé des beautés à travers les siècles. Vraiment, donc, il y a besoin de beauté. Il y a besoin de vie spirituelle, je pense, vraiment.
Les grottes de Lascaux, les premières peintures rupestres, on ne sait toujours pas pourquoi. Mmh. Est-ce que c'était pour attirer le gibier ou est-ce que c'était juste par fascination pour la beauté des formes, au fond ?
Ah, mais je crois qu'on a toujours eu besoin de s'exprimer. Je pense que il y a toujours eu des artistes, je pense, sur Terre. Il y a toujours eu des personnalités artistiques, comme ça, qui avaient besoin de faire des choses sur les murs. Il y en a eu bien d'autres qui sont perdus, mais sur les murs et dans les grottes, ça se garde pas mal. Oui.
Et il y a, vous savez, la délicatesse du goût, c'est le philosophe anglo-saxon David Hume qui dit, voilà, eh ben on apprend en fait à ouvrir les yeux, on apprend à aiguiser sa sensibilité, et on peut finalement, par éducation, par délicatesse, du raffinement, se retrouver à trouver beau quelque chose qu'on ne trouvait pas beau au début. Est-ce qu'il y a des pièces comme ça dans votre collection ? Qui au début qui était trop bizarre ou trop trash ou... et que finalement vous adorez.
Moi je crois pas en fait. Je réfléchis bien, hein. Mais je crois pas. Je les aime beaucoup toutes les pièces. Chaque fois que j'arrive à retomber dessus dans un classeur et tout.
Ouais.
Oui. Si je m'ennuie de certaines pièces, mais on va pas. Je peux pas arrêter de les bouger quand même. C'est fatigant pour tout le monde.
Si on devait en prendre mais deux là comme ça, dont vous pourriez nous parler pour qu'on se rende à la galerie Fab dans le 13e, donc place Jean-Michel Basquiat.
Mais là, en
deux
ce moment,
heures.
C'est Futura. Hein. C'est ouais. Futura 2000.
Oui, d'ailleurs, je précise que voilà. Nous avons l'exposition Futura 2000 jusqu'au 19 octobre à la Galerie Fab, et que dans la Galerie du Jour, qui est maintenant dans la Fab, on a aussi la merveille Keleke Keleke du 6 septembre au 26 octobre, et Mark Cohen, Low Ideas, du 17 novembre au 4 janvier.
Voilà.
Donc trois expositions. Et je précise aussi que ce qui était votre galerie, donc la Galerie du Jour qui était rue du Jour, est maintenant au
Après,
sein de Fab.
Après, elle était rue Quincampoix, et maintenant elle est à la Fab, place Jean-Michel Basquiat.
Voilà.
C'est là-bas, et moi j'aime énormément aller dans cet endroit, j'y vais au moins une fois par semaine ou plus, et puis je fais toujours les accrochages. Il y a une équipe que j'aime beaucoup, j'adore faire les accrochages. Je dis toujours, c'est comme une dissertation visuelle, l'accrochage. Parce que je vais trouver le fil qui relie les pièces, j'adore faire ça.
Ça raconte une histoire ?
Ça raconte, oui, il faut qu'on comprenne, qu'il y ait un feeling, qu'on soit pris par la... C'est une narration un peu, un accrochage, hein.
Bah oui.
Ouais. Et j'adore faire ça. C'est une proposition, hein. Mais j'aime bien le faire. Puis à la galerie, je l'ai beaucoup fait, longtemps. Hein. Et Futura qui est exposé là, il était chez Yvon Lambert en 93, je crois.
Ouais.
Et Yvon m'a dit, écoute, prends-le, moi je sais pas me débrouiller de ça. Hein.
C'est quel type d'art qu'on comprenne ?
C'est beaucoup de la peinture abstraite, du graphe, pas que du graphe, non, il est très fort. Ouais.
Merci beaucoup.
J'ai un foulard de lui quelque part, mais là,
vous l'avez
pas
vous,
mon sac. Oui.
Ben si, prenez-le, c'est marrant. Donc ça, c'est quoi ça ?
C'est un foulard que j'ai fait avec une œuvre de Futura.
Futura, donc là vous sortez un foulard.
Disons,
donc, je vais essayer de le décrire. Donc c'est un foulard rose avec des comme des éclairs. Il y a du noir, il y a une flèche blanche, il y a de la lumière. C'est traversé. Et je vois écrit quoi là ? Agnès B. Et...
Agnès B. Artiste. Futura.
Merci beaucoup.
Futura.
Ouais. Merci du cadeau. Bah, écoutez, c'est la dernière émission de l'été, j'aurais eu un très beau cadeau.
Vous voulez pas la bleue plutôt ?
Si, je préfère la bleue en effet, ça va mieux avec ma chemise en jean. Merci beaucoup Agnès B. de nous avoir accompagnés dans cette dernière émission de l'été. C'était passionnant de découvrir votre regard à la fois mystique, de collectionneuse, de passionnée et aussi très généreux. J'aurais envie peut-être de conclure là-dessus, sans chercher à trop théoriser sur ce qui fut votre philosophie de la vie. Alors évidemment, collectionneuse, dénicheuse, chercher la beauté, autoriser les gens à exprimer la hardiesse de leur singularité, autoriser les gens à s'écouter, au fond c'est ça le jugement de goût. Bah, c'est moi qui sais, j'ai pas besoin d'experts, j'ai pas besoin de critères, mais au fond de tout, moi ce qui me touche quand je suis à côté de vous, c'est votre générosité. Voilà, aussi bien pour la fondation que vous financez, Tara Océan. Il y a de la générosité dans ce regard esthétique, il y a de la générosité dans le fait d'ouvrir les yeux, il y a de la générosité dans le fait d'être mécène, de la générosité dans le fait de collectionner. Et cette générosité, eh bien, je suis très heureux de conclure cet été sous le soleil de Platon avec vous.
Et
merci
ben
beaucoup.
Dis, be yourself et n'emmerdez pas les autres.
Voilà, merci beaucoup Agnès B.
Voilà.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme, Laura Dumez et Joseph Ascal. À la programmation musicale Valentine Chedebois, et on la remercie parce que le morceau de Patti Smith, on ne pouvait pas mieux faire. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Mathias Alléon. Et je ne vous dis pas à lundi parce que c'est terminé, l'été sous le soleil de Platon. Lundi, vous retrouvez la matinale de France Inter. Bon week-end.